l'inégalité totale des revenus, les deux mondes. Examinons finalement les ordres de grandeur atteints par l'inégalité totale des revenus, c'est-à-dire l'inégalité observée quand on prend en compte à la fois les revenus du travail et du capital, voir tableau 7.3. Sans surprise, le niveau d'inégalité du revenu total est intermédiaire entre l'inégalité des revenus du travail et l'inégalité de la propriété du capital. On notera également que l'inégalité du revenu total est plus proche de l'inégalité face au travail que de l'inégalité face au capital, ce qui n'est pas très étonnant, puisque les revenus du travail représentent généralement entre les 2/3 et les 3/4 du revenu national total. Concrètement, le décile supérieur de la hiérarchie des revenus détient environ 25% du revenu national dans les sociétés scandinaves les plus égalitaires des années 1970-1980. Les niveaux français et allemands étaient à l'époque de l'ordre de 30%, et ils sont aujourd'hui plus proches de 35%, et cette part peut monter jusqu'à 50% du revenu national dans les sociétés les plus inégalitaires, dont environ 20% pour le centile supérieur, comme l'Ancien Régime ou la Belle Époque en France ou au Royaume-Uni, ou bien les États-Unis des années 2010. Est-il possible d'imaginer des sociétés où la concentration des revenus serait nettement plus élevée que ce niveau maximal? Sans doute non. Si le décile supérieur s'appropriait par exemple 90% des ressources produites chaque année et le centile supérieur 50% à lui tout seul, comme pour les patrimoines, il est probable qu'une révolution mettrait fin assez rapidement à une telle situation, sauf à imaginer un appareil répressif particulièrement efficace. Lorsqu'il s'agit de la propriété du capital, un tel niveau de concentration est déjà porteur de fortes tensions politiques et se conjugue souvent mal avec le suffrage universel. Il peut être tenable, dans la mesure où les revenus du capital ne représentent qu'une part limitée du revenu national, entre 1/4 et 1/3, parfois un peu plus, comme sous l'Ancien Régime, ce qui rend cette concentration extrême particulièrement pesante. Mais si un tel niveau d'inégalité devait s'appliquer à la totalité du revenu national, il est assez difficile d'imaginer que cela soit durablement accepté. Cela étant dit, rien ne nous permet d'affirmer que la borne supérieure de 50% du revenu national pour le décile supérieur est indépassable et que le monde s'écroulerait si un pays s'aventurait à franchir ce seuil symbolique. À dire vrai, les données historiques disponibles sont relativement imparfaites, et il n'est pas du tout exclu que cette barre symbolique ait été déjà franchie. En particulier, il est possible que la part du décile supérieur ait dépassé 50% et se soit approchée de 60% du revenu national, voire légèrement plus, au cours de l'Ancien Régime et à la veille de la Révolution française, ou plus généralement, dans les sociétés rurales traditionnelles. En vérité, le caractère plus ou moins soutenable d'inégalités aussi extrêmes dépend non seulement de l'efficacité de l'appareil répressif, mais également et peut-être surtout de l'efficacité de l'appareil de justification. Si les inégalités sont perçues comme justifiées, par exemple parce qu'elles semblent découler du fait que les plus riches ont choisi de travailler davantage ou plus efficacement que les plus pauvres, ou bien parce que les empêcher de gagner davantage nuirait inévitablement aux plus pauvres, alors il est tout à fait envisageable que la concentration des revenus dépasse ses records historiques. C'est pourquoi nous avons indiqué dans le tableau 7.3 un possible nouveau record atteint par les États-Unis vers 2030, au cas où l'inégalité des revenus du travail et à un degré moindre l'inégalité de la propriété du capital poursuivrait sa progression des dernières décennies. On atteindrait alors une part d'environ 60% du revenu national pour le décile supérieur et une part d'à peine 15% du revenu national pour la moitié inférieure de la population. Insistons de nouveau sur ce point. La question centrale concerne la justification des inégalités, bien plus que leur ampleur en tant que telle. C'est pourquoi il est essentiel d'analyser la structure des inégalités. De ce point de vue, le principal enseignement des tableaux 7.1-7.3 est sans doute qu'il existe deux façons très différentes pour une société d'atteindre une forte inégalité du revenu total, autour de 50% du revenu total pour le décile supérieur, dont environ 20% pour le centile supérieur. En premier lieu, et il s'agit là du schéma classique, une telle inégalité peut être le produit d'une société hyper patrimoniale ou société de rentiers, c'est-à-dire une société où les patrimoines dans leur ensemble sont très importants et où la concentration des patrimoines atteint des niveaux extrêmes, avec typiquement 90% du patrimoine total pour le décile supérieur, dont environ 50% pour le centile supérieur. La hiérarchie du revenu total est alors dominée par les très hauts revenus du capital et notamment par les revenus du capital hérité. C'est le schéma que l'on observe avec des variations somme toute limitées par rapport aux points communs dans les sociétés d'Ancien Régime comme dans l'Europe de la Belle Époque. Il nous faudra comprendre les conditions d'émergence et de pérennité de telles structures de propriété et d'inégalité, et dans quelle mesure elles appartiennent au passé, ou bien au contraire, peuvent concerner le XXIe siècle. En second lieu, et il s'agit du nouveau schéma, inventé dans une large mesure par les États-Unis au cours des toutes dernières décennies, une très forte inégalité du revenu total peut être le produit d'une société hyper méritocratique, ou tout du moins que les personnes se trouvant au sommet de la hiérarchie aiment présenter comme telle. On peut aussi parler de société de superstars, ou peut-être plutôt société de supercadres, ce qui est un peu différent. Nous verrons quel qualificatif est le plus justifié. C'est-à-dire une société très inégalitaire, mais où le sommet de la hiérarchie des revenus serait dominé par les très hauts revenus du travail, et non par les revenus hérités. Précisons d'emblée que nous ne nous prononçons pas à ce stade sur la question de savoir si une telle société peut être véritablement qualifiée d'hyper-méritocratique. Il n'y a rien d'étonnant à ce que les gagnants d'une telle société aiment à décrire ainsi la hiérarchie sociale et parviennent parfois à en convaincre une partie des perdants. Mais pour nous, il doit s'agir d'une conclusion possible, tout aussi possible a priori que la conclusion contraire, et non d'une hypothèse. Nous verrons donc dans quelle mesure la montée de l'inégalité des revenus du travail aux États-Unis suit une logique méritocratique, et dans quelle mesure il est possible de répondre à cette question normative complexe. Au point où nous en sommes, contentons-nous de noter que cette opposition absolue entre les deux types de sociétés hyper inégalitaires, entre société de rentiers et société de supercadres, est naïve et excessive. Les deux types d'inégalités peuvent parfaitement se cumuler. Rien n'interdit d'être en même temps supercadre et rentier. Bien au contraire, comme le suggère le fait que la concentration des patrimoines est actuellement sensiblement plus élevée aux États-Unis qu'en Europe. Et rien n'interdit évidemment aux enfants de supercadres de devenir rentiers. En pratique, toutes les sociétés mêlent toujours les deux logiques. Il n'en reste pas moins qu'il existe bien plusieurs façons d'atteindre un même niveau d'inégalité et que les États-Unis des années 2010 se caractérisent avant tout par une inégalité record des revenus du travail, plus élevée que dans toutes les sociétés observées dans l'histoire et dans l'espace, y compris des sociétés caractérisées par de très fortes disparités de qualification, et par des inégalités patrimoniales moins extrêmes que celles observées dans les sociétés traditionnelles ou dans l'Europe de 1900-1910. Il est donc essentiel de comprendre les conditions de développement propres à ces deux logiques, sans oublier qu'elles pourraient fort bien se compléter au XXIe siècle et non plus se substituer l'une à l'autre et conduire ainsi à un nouveau monde de l'inégalité plus extrême encore que les deux premiers. Cette association croissante entre les deux dimensions de l'inégalité pourrait par exemple découler de la hausse tendancielle des droits d'inscriptions universitaires. Nous y reviendrons. Les problèmes posés par les indicateurs synthétiques. Avant de passer à l'étude détaillée des évolutions historiques observées dans les différents pays et de tenter de répondre à ces questions, il nous faut encore préciser plusieurs points de méthode. En particulier, nous avons indiqué dans les tableaux 7.1-7.3 les coefficients de Gini correspondant aux différentes répartitions considérées. Le coefficient de Gini, du nom du statisticien italien Corrado Gini, qui écrivait au début du XXe siècle et dans l'entre-deux-guerres, est l'un des indicateurs synthétiques d'inégalité les plus fréquemment utilisés dans les rapports officiels et dans le débat public. Par construction, il est toujours compris entre 0 et 1. Il est égal à 0 en cas d'égalité complète et à 1 en cas d'inégalité absolue, c'est-à-dire si un groupe infiniment petit détient la totalité des ressources disponibles. Concrètement, on constate que le coefficient de Gini varie approximativement entre 0,2 et 0,4 pour les répartitions des revenus du travail observés en pratique dans les différentes sociétés, entre 0,6 et 0,9 pour les répartitions observées de la propriété du capital, et entre 0,3 et 0,5 pour l'inégalité du revenu total. Avec un coefficient de Gini de 0,19, la répartition des revenus du travail observés dans les pays scandinaves des années 1970-1980 n'est pas très loin de l'égalité absolue. Inversement, avec un coefficient de Gini de 0,85, la répartition des patrimoines constatés en Europe à la Belle Époque n'est pas loin de l'inégalité absolue. Ces coefficients, il en existe d'autres, par exemple l'indice de Tay, sont parfois utiles, mais ils posent de multiples problèmes. Ils prétendent résumer en un unique indicateur numérique l'inégalité complète de la répartition, aussi bien l'inégalité séparant le bas du milieu de la hiérarchie que celle séparant le milieu et le haut, ou le haut et le très haut de la pyramide. Ce qui est très simple et séduisant de prime abord, mais inévitablement quelque peu illusoire. En vérité, il est impossible de résumer une réalité multidimensionnelle par un indicateur unidimensionnel. Sauf à simplifier à l'excès cette réalité et à mélanger des choses qui ne doivent pas l'être. La réalité sociale et la signification économique et politique de l'inégalité sont fort différentes selon les niveaux de la répartition, et il est important de les analyser séparément. Sans compter que les coefficients de Gini et autres indicateurs synthétiques ont également tendance à mélanger l'inégalité face au travail et celle face au capital, alors même que les mécanismes économiques en jeu, de même d'ailleurs que les appareils de justification normative des inégalités, sont distincts dans les deux cas. Pour toutes ces raisons, il nous semble hautement préférable d'analyser les inégalités à partir de tableaux de répartition indiquant les parts des différents déciles et centiles dans le revenu total et le patrimoine total, plutôt qu'en utilisant des indicateurs synthétiques tels que le coefficient de Gini. De tels tableaux de répartition ont en outre le mérite de contraindre les uns et les autres à prendre la mesure des niveaux de revenus et de patrimoine des différents groupes sociaux qui composent les hiérarchies en vigueur, exprimées en monnaie sonnante et trébuchante, ou en pourcentage des revenus et patrimoine moyens du pays en question, et non dans une unité statistique fictive et difficile à décrypter. Les tableaux de répartition permettent d'avoir un point de vue plus concret et plus charnel sur l'inégalité sociale, et aussi de mieux prendre conscience de la réalité et des limites des données dont on dispose pour étudier ces questions. Les indicateurs statistiques synthétiques, tels que le coefficient de Gini, donnent au contraire une vision abstraite et aseptisée de l'inégalité, qui non seulement ne permet pas aux uns et aux autres de se situer dans la hiérarchie de leur temps, exercice toujours utile, surtout lorsqu'on en fait partie des centiles supérieurs de la distribution et que l'on a tendance à l'oublier, ce qui est assez souvent le cas des économistes, mais qui parfois empêche de réaliser que les données sous-jacentes présentent des anomalies ou des incohérences, ou à tout le moins ne sont pas pleinement comparables dans le temps ou entre pays. Par exemple, parce que les hauts de distribution sont tronqués, ou bien parce que les revenus du capital sont omis pour certains pays et non d'autres. Le fait de montrer les tableaux de répartition oblige à davantage de cohérence et de transparence. Le voile pudique des publications officielles. Pour les mêmes raisons, nous mettons également en garde contre l'usage d'indicateurs tels que les rapports interdéciles souvent utilisés par l'OCDE et les instituts statistiques des différents pays dans leurs rapports officiels consacrés aux inégalités. Le rapport interdécile le plus fréquemment utilisé est le ratio P90-P10, c'est-à-dire le ratio entre le seuil de revenu correspondant au 90e centile de la distribution et le seuil correspondant au 10e centile. Par exemple, s'il faut dépasser le seuil de 5 000 € par mois pour faire partie du groupe des 10% les plus riches et être au-dessous du seuil de 1 000 € par mois pour pénétrer dans le groupe des 10% les plus pauvres, alors on dira que le rapport interdécile P90-P10 est égal à 5. De tels indicateurs peuvent être utiles, il est toujours précieux d'avoir davantage d'informations sur la forme complète de la répartition en vigueur. Mais il faut être conscient du fait que, par construction, ces indicateurs oublient totalement de tenir compte de l'évolution de la répartition au-delà du 90e centile. Concrètement, pour un même rapport interdécile P90-P10, il se peut que la part du décile supérieur dans le total des revenus ou des patrimoines soit de 20%, comme des salaires scandinaves des années 1970-1980, ou bien de 50%, comme des revenus américains des années 2010, ou bien encore de 90%, comme des patrimoines européens de la Belle Époque. Dans un cas comme dans l'autre, nous n'en saurons rien en consultant les publications des organisations internationales et des instituts statistiques officiels, qui le plus souvent se concentrent sur des indicateurs ignorant volontairement le haut de la distribution et ne donnent aucune indication sur les revenus et patrimoines moyens au-delà du 90e centile. Cela est généralement justifié en évoquant les imperfections des données disponibles. Ces difficultés existent, mais elles peuvent être surmontées pour peu que l'on utilise des sources adéquates, comme le montrent les données historiques rassemblées dans la World Top Incomes Database, WTID, avec des moyens limités et qui ont commencé à modifier, lentement, les façons de faire. En vérité, un tel choix méthodologique de la part des administrations publiques nationales et internationales est loin d'être neutre. Ces rapports officiels sont censés contribuer à informer le débat public sur la répartition des richesses et en pratique, ils présentent souvent une vision artificiellement apaisée des inégalités. Pour donner une comparaison, c'est un peu comme si un rapport gouvernemental officiel sur les inégalités en France en 1789 avait choisi d'ignorer totalement tout ce qui se passe au-delà du 90e centile, soit un groupe entre 5 et 10 fois plus vaste que l'ensemble de l'aristocratie de l'époque, au motif qu'il est décidément trop complexe d'en parler. C'est d'autant plus regrettable qu'une approche aussi pudique ne peut que contribuer au développement des fantasmes les plus extrêmes et au discrédit général dont souffrent souvent les statistiques et les statisticiens et en aucune façon à l'apaisement. À l'inverse, les rapports interdéciles conduisent parfois à faire apparaître des ratios énormes pour des raisons en grande partie artificielles. Par exemple, s'agissant de la répartition de la propriété du capital, les 50% des patrimoines les plus faibles dans leur ensemble sont généralement proches de zéro. Suivant comment l'on mesure les petits patrimoines, par exemple si l'on prend en compte les biens durables ou les dettes, on peut se retrouver pour la même réalité sociale sous-jacente avec des évaluations en apparence très différentes du niveau exact du 10e centile de la hiérarchie des patrimoines. On pourra, selon les cas, trouver 100 euros, 1000 euros ou bien 10 000 euros, ce qui, dans le fond, n'est pas très différent. Mais ce qui peut conduire à des rapports interdéciles très éloignés suivant les pays et les époques, alors même que la part de la moitié inférieure des patrimoines est dans tous les cas inférieure à 5% du patrimoine total. Il en va de même, à un degré à peine moindre, pour la répartition des revenus du travail. En fonction de la façon dont on choisit de traiter les revenus de remplacement et les faibles durées du travail, par exemple suivant si on fait la moyenne des revenus du travail obtenus sur la semaine, le mois, l'année ou la décennie, on peut se retrouver avec des seuils P10, et donc des rapports interdéciles extrêmement volatiles, quand bien même la part des 50% des revenus du travail les plus faibles dans le total serait en réalité relativement stable. Il s'agit peut-être de l'un des principaux éléments expliquant pourquoi il est préférable d'étudier les répartitions telles que nous les avons présentées dans les tableaux 7.1-7.3, c'est-à-dire en insistant sur les parts détenues par les différents groupes, en particulier la moitié inférieure et le décile supérieur de chaque société, dans le total des revenus et des patrimoines, plutôt que sur les seuils. Les parts donnent à voir des réalités beaucoup plus stables que les rapports entre seuils. Retour aux tables sociales et à l'arithmétique politique. Voici donc les différentes raisons pour lesquelles les tableaux de répartition que nous avons examinés dans ce chapitre constituent à nos yeux l'outil le plus adapté pour étudier la répartition des richesses, bien davantage que les indicateurs synthétiques et les ratios interdéciles. Ajoutons que notre démarche est la plus cohérente avec celle de la comptabilité nationale. À partir du moment où les comptes nationaux permettent maintenant, dans la plupart des pays, de connaître chaque année le revenu national et le patrimoine national, et donc le revenu moyen et le patrimoine moyen, puisque les sources démographiques permettent de connaître aisément la population totale, l'étape suivante est naturellement de décomposer ces masses de revenus et de patrimoine entre les différents déciles et centiles. Cette recommandation a été formulée par de nombreux rapports visant à améliorer et à humaniser la comptabilité nationale, mais avec peu de progrès à ce jour. Une décomposition permettant de distinguer les 50% les plus pauvres, les 40% suivants et les 10% les plus riches peut légitimement être considérée comme une première étape utile pour avancer dans cette direction. En particulier, une telle approche permet à chacun de se rendre compte jusqu'à quel point le taux de croissance de la production intérieure et du revenu national se retrouve ou non dans les revenus réellement perçus par les différents groupes sociaux. Par exemple, seule la connaissance de la part du décile supérieur permet de savoir dans quelle mesure une fraction disproportionnée de la croissance a été captée par le haut de la distribution. La contemplation d'un coefficient de Gini ou d'un rapport interdécile ne permet pas de répondre à cette question de façon aussi précise et transparente. Précisons enfin que les tableaux de répartition dont nous préconisons l'utilisation sont d'une certaine façon assez proches des tables sociales, social tables, en vogue au XVIIIe et au début du XIXe siècle. Imaginez au Royaume-Uni et en France, à la fin du XVIIe et au cours du XVIIIe siècle, ces tables sociales ont été abondamment utilisées, raffinées et commentées en France pendant le siècle des Lumières, comme dans le fameux article « Arithmétique politique » de l'Encyclopédie de Diderot. Des premières versions établies par Gregory King pour l'année 1688 au tableau plus élaboré conçu par Expilly ou Isnard à la veille de la Révolution française, ou par Peuchet, Colquhoun ou Blodget au cours de la période napoléonienne. Ces tables tentent toujours de donner une vision d'ensemble de la structure sociale. Elles indiquent les nombres de nobles, de bourgeois, de gentilshommes, d'artisans, de cultivateurs, etc. Et le montant estimé de leurs revenus, et parfois de leur patrimoine, en liaison avec les premières estimations du revenu national et de la fortune nationale réalisées à la même époque par ces auteurs. La différence essentielle, cependant, est que ces tables utilisent les catégories sociales de leur temps et ne cherchent pas à répartir les richesses en termes de déciles ou de centiles. Il n'en reste pas moins que ces tables, par la dimension charnelle qu'elles tentent de donner de l'inégalité et par leur insistance sur les parts de la richesse nationale détenues par les différents groupes sociaux, en particulier les différentes strates d'élite, ont une proximité évidente avec l'approche que nous tentons de suivre. À l'inverse, elles sont relativement éloignées en esprit des mesures statistiques aseptisées des inégalités qui se sont trop souvent imposées au XXe siècle et qui ont eu tendance à naturaliser la question de la répartition des richesses, envisagée de façon atemporelle et non conflictuelle, à la manière d'un Gini ou d'un Pareto. La façon dont on cherche à mesurer les inégalités n'est jamais neutre. Nous reviendrons sur ces discussions dans les prochains chapitres lorsque nous évoquerons la question de Pareto et de ses fameux coefficients.